Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquins en 1995, le livre des superstitions, mythes, croyances et légendes est un vaste dictionnaire consacré aux croyances populaires. Établi par Héloïse Mozzani, historienne des traditions populaires, il rassemble plus de 1200 entrées sur près de 1800 pages, avec des illustrations, des citations et des références littéraires. Son centre de gravité demeure la France et Europe, mais le volume ouvre aussi des perspectives sur des traditions américaines, africaines et asiatiques. Il ne propose donc ni un traité de démonstration du paranormal, ni un simple recueil de curiosités. Son ambition consiste à documenter les signes, présages, pratiques, interdits et récits par lesquels des sociétés ont tenté de rendre le monde lisible. La forme alphabétique permet une consultation ponctuelle aussi bien qu'une exploration prolongée. Le livre montre surtout que la superstition relève de la culture, de la mémoire collective et des usages sociaux, y compris dans des périodes marquées par le progrès scientifique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un dictionnaire de 1200 entrées pour cartographier les croyances populaires. Le choix du dictionnaire constitue la première singularité de cet ouvrage. Plutôt que de construire un récit historique continu ou de défendre une théorie unique de la superstition, Héloïse Mozzani organise une masse considérable de matériaux sous forme alphabétique. Cette architecture convient à un domaine dont les manifestations sont innombrables et souvent fragmentaires: objets, animaux, nombres, gestes, phénomènes météorologiques, moments du calendrier ou parties du corps peuvent tous devenir porteurs de signes. Le lecteur peut partir d'une question précise, puis circuler entre des motifs voisins et observer des correspondances inattendues. Une croyance ne se réduit pas à une formule isolée, elle prend sens par ses variantes régionales, ses associations symboliques et sa transmission. La consultation favorise ainsi une lecture comparative, sans imposer artificiellement une cohérence totale à des traditions diverses. L'ampleur matérielle du volume renforce cette fonction de répertoire. Les illustrations, ainsi que les nombreuses références à la poésie, à la littérature et au théâtre signalés par les catalogues, replacent les croyances dans un imaginaire plus large que celui de la pratique quotidienne. Le livre sert donc à la fois de source de découverte, de guide de référence et de instrument pour reconnaître la persistance de motifs traditionnels dans la culture écrite. Deuxièmement, présages et signes, une manière culturelle de rendre le hasard intelligible. Le recensement des superstitions met en évidence une logique essentielle face aux événements incertains. Beaucoup de groupes humains cherchent des indices qui permettent de prévoir, prévenir ou expliquer. Les présages liés aux rencontres, aux rêves, aux comportements d'animaux, aux accidents domestiques ou aux circonstances du voyage ne constituent pas seulement des anecdotes pittoresques. Ils transforment un fait ordinaire en message possible et donnent une forme interprétable à ce qui échappe au contrôle. Cette logique peut concerner la santé, la fécondité, le travail, le mariage, la mort ou la protection du foyer. Le livre invite ainsi à considérer les croyances comme des réponses symboliques à des inquiétudes concrètes. Cela ne revient pas à les valider comme description objective du réel. Leur intérêt historique réside au contraire dans ce qu'elles révèlent des risques perçus, des espoirs collectifs et des façons de relier la conduite individuelle à un ordre invisible. La diversité des entrées permet aussi de constater qu'un même signe peut recevoir des sens différents selon les lieux et les époques. Le lecteur est donc conduit à éviter deux réductions opposées: la moquerie, qui ne voit que irrationalité, et la fascination, qui oublie le contexte social. Mozzani donne les moyens de situer les mécanismes symboliques de la croyance plutôt que de les isoler de leur fonction culturelle. Troisièmement, une enquête centrée sur Europe et ouverte aux traditions de plusieurs continents, le volume accorde une place majeure aux superstitions françaises et européennes, ce qui lui donne une base culturelle précise. Cette orientation permet de suivre des traditions qui ont circulé entre régions, langues, pratiques religieuses, coutumes rurales et milieux urbains. Toutefois, le livre ne traite pas Europe comme un univers clos. Il propose également un panorama de croyances américaines, africaines et asiatiques. Cette ouverture élargit le regard, mais ne doit pas conduire à effacer les différences entre sociétés. Des ressemblances peuvent apparaître autour de la protection, de la chance, des morts ou de la divination, sans que les significations locales soient interchangeables. Le bénéfice intellectuel de cette composition est de montrer que le recours aux signes ne se laisse pas enfermer dans une opposition simpliste entre traditions occidentales et ailleurs exotiques. Les croyances populaires sont présentes dans de nombreux cadres historiques et se transforment au contact des migrations, des récits, des traductions et des médias. La collaboration de Annie Lajus-Mozzani, notamment pour des ouvrages anglo-saxons, participe à cette circulation documentaire. Pour un lecteur, ce cadre comparatif est utile à condition de conserver une attention aux provenances. Le livre offre des rapprochements et des points de départ, non une théorie uniforme des cultures. Sa valeur tient précisément à cette coexistence entre un ancrage européen très fourni et une curiosité documentée pour des horizons plus larges. Quatrièmement, entre histoire sociale, folklore et littérature, plutôt que simple catalogue de curiosités, la formation de historienne de Héloïse Mozzani éclaire la portée du livre. Les superstitions y apparaissent comme des traces de pratiques et de représentations collectives, et non comme une liste de bizarreries détachées de leur époque. Une croyance peut signaler la peur de la maladie, les dangers attribués à certains passages de la vie, la recherche de protection ou les rapports entre normes religieuses et usages quotidiens. Mais le volume ne se limite pas au folklore oral. Ses citations et ses références fréquentes à la poésie, à la littérature et au théâtre soulignent que les motifs superstitieux nourrissent aussi la création culturelle. Cette dimension est importante, les croyances peuvent être vécues, racontées, critiquées, détournées ou conservées comme images littéraires. Elles circulent donc entre la maison, la rue, les récits familiaux et les textes. Une telle approche évite de figer le folklore dans un passé rural supposé disparu. Elle permet de comprendre pourquoi certains symboles survivent alors même que les explications savantes progressent. Le livre ne prétend pas que la raison moderne a supprimé le besoin de merveilleux ou de signes. Il donne plutôt à voir leur réemploi sous des formes variables. Pour les lecteurs de littérature, de mythologie culturelle ou de histoire des mentalités, cette articulation entre sources populaires et culture écrite constitue un apport central. En dernier lieu, lire les superstitions sans les confondre avec des vérités ni les réduire au ridicule. Un ouvrage de cette ampleur appelle une lecture critique. Le classement de croyances anciennes ou contemporaines ne transforme pas leurs affirmations en faits établis. Il documente ce que des personnes et des communautés ont pu croire, transmettre ou pratiquer. Cette distinction est essentielle, en particulier lorsque certaines traditions touchent à la maladie, au malheur, à la mort ou à des groupes humains exposés autrefois à la stigmatisation. Les notices peuvent faire sourire, mais elles rappellent aussi que des convictions relatives au sort, à la sorcellerie ou aux mauvais présages ont parfois contribué à de peur, des exclusions et des violences. Le lecteur gagne donc à utiliser le volume comme un outil de contextualisation. Il peut comparer les variantes, repérer la mobilité des symboles et interroger la raison pour laquelle tel signe inspire confiance ou inquiétude. La forme encyclopédique possède aussi une limite productive, elle privilégie la richesse des matériaux sur une argumentation suivie. Pour approfondir une période, une ère culturelle ou un problème historique, il faudra compléter la lecture par des travaux spécialisés. Cette limite ne diminue pas son utilité. Elle définit son rôle fournir un vaste terrain documentaire, accessible par entrée, où la curiosité se combine avec une distance analytique. Ainsi, le livre aide à comprendre la superstition comme fait culturel et social, sans inviter à adhérer aux croyances recensées. En conclusion, le livre Des superstitions, mythes, croyances et légendes conviendra particulièrement aux lecteurs intéressés par le folklore, histoire culturelle, ethnologie, mythologie, comparée et littérature. Il sera également utile aux écrivains, enseignants, artistes et chercheurs qui souhaitent vérifier un motif traditionnel ou enrichir une réflexion sur les symboles, les présages et les récits populaires. Sa consultation demande du temps, car son format monumental ne vise pas une lecture linéaire rapide. En retour, la structure alphabétique rend possible une utilisation très concrète, éclairer une expression, retrouver une croyance liée à un objet ou à un animal, préparer une recherche ou suivre les ramifications d'un thème à travers diverses traditions. Comparé au recueil de superstitions limité à des listes de porte-bonheur et de mauvais signes, le livre se distingue par son ampleur documentaire, son ancrage historique et son attention aux circulations entre traditions populaires et culture littéraire. Il ne cherche pas à imposer une explication définitive du phénomène, il fournit plutôt les éléments nécessaires pour observer comment des sociétés donnent sens au hasard, au risque et à l'invisible. Son autre distinction est de tenir ensemble un socle très riche sur la France et Europe et une ouverture vers des croyances de autres continents. Cette combinaison en fait moins un manuel de croyances qu'une bibliothèque de référence. Pour qui accepte de lire avec curiosité et prudence, il demeure un instrument singulier pour comprendre la longue vie sociale des mythes et des superstitions. Si vous souhaitez soutenir Héloïse Mozzani, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!